Très heureux de vous accueillir, très nombreux. Béatrice et moi allons animer cette table ronde qui s'appelle Comment construire des partenariats innovants avec le secteur adapté, co-traitance, sous-traitance, conception et réalisation sur mesure. Donc, nous allons essayer de vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir développer votre collaboration avec les entreprises adaptées et avec les ESAT sur l'ensemble du territoire. La construction des partenariats entre les entreprises adaptées ou les ESAT et leurs partenaires économiques est quelque chose de très important. Si aujourd'hui la modalité de contractualisation principale et la plus courante demeure le contrat de sous-traitance ou le contrat de prestation de service, la co-traitance devient aujourd'hui une relation qui se développe de plus en plus et qui prend qui a une montée en charge vraiment très très importante. Si on regarde un peu les différentes typologies de contractualisation possibles entre les acteurs des secteurs adaptés et protégés et les entreprises, il existe plusieurs alternatives. La relation directe entre le donneur d'ordre et l'entreprise adaptée ou les ESAT, donc le contrat de fourniture, de vente, et le contrat de prestation, dont la sous-traitance. Dans ce cadre et dans ce schéma, il y a la possibilité de récupérer pour le donneur d'ordre les équivalences d'emploi ou les unités bénéficiaires, en fonction de l'appellation que l'on donne, qui sont recherchées dans le cadre de la relation contractuelle. La sous-traitance de marché entre un fournisseur principal, titulaire d'un marché avec un donneur d'ordre principal également, c'est-à-dire que l'entreprise adaptée, ou les ESAT est sous-traitant d'un fournisseur de rang 1. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de possibilité pour l'entreprise donneur d'ordre initial de pouvoir récupérer les équivalences d'emploi en fin d'année. Et donc la co-traitance qui se développe, où globalement un donneur d'ordre signe avec un ensemble de prestataires, EA, ESAT ou entreprises ordinaires, regroupés dans un groupement momentané d'entreprise, un GME, un contrat d'entreprise. Et là, il y a la possibilité de récupérer les équivalences d'emploi au prorata des activités effectuées par les entreprises adaptées et les ESAT. Donc, au-delà de la pratique contractuelle, nous allons, au sein de cet atelier, découvrir comment les acteurs économiques traditionnels peuvent accompagner les entreprises adaptées ou les ESAT dans leur professionnalisation et dans le développement de leurs compétences. Et là, je passe la parole à Béatrice.
Merci. Pardon. Merci Sébastien. Donc nous allons effectivement tout de suite commencer cette illustration par un binôme entreprise adaptée, acteur économique traditionnel, binôme qui a su mettre son intelligence collaborative au service d'une part d'un grand groupe aéronautique Airbus en l'occurrence, et d'autre part au service de salariés de l'entreprise adaptée à travers leur montée en compétences. Donc Anne Findler, vous êtes à la direction RSE et mission handicap de Capgemini, où vous avez entre autres la charge de développer le recours au secteur du travail protégé adapté pour l'ensemble des entités du groupe Capgemini en France, dont la filiale Sogety High-Tech, qui s'est pleinement engagée dans la co-traitance avec les ESAT et les EA, et qui est le sujet d'aujourd'hui. Catherine Huard-Lefin, vous avez fondé BGC 31 avec une volonté de faire grandir ses salariés en compétences. Et en 2013, vous avez demandé et obtenu le statut d'entreprise adaptée, dont vous êtes aujourd'hui la gérante. Il faut dire que dès que vous avez obtenu ce statut, vous êtes devenue une habituée des réponses aux appels d'offres auprès d'Airbus et de l'aéronautique. Et vous pourrez nous dire pourquoi tout spécifiquement l'aéronautique, en tout cas avec d'autres partenaires, mais toujours en sous-traitance ou en GME, donc en groupement momentané d'entreprise. Puis avec Sogety High-Tech, ben vous avez fait une proposition à Airbus, qui est une proposition très audacieuse, et vous allez nous expliquer en quoi une entreprise adaptée et une entreprise du milieu ordinaire classique peuvent travailler ensemble, co-traiter ensemble, pour faire quelque chose d'inédit et d'audacieux.
Alors, bonjour. Donc, faut Déjà, enfin, de par mon passé aéronautique, puisque c'est à ce passé que je pense que vous faisiez allusion, dès que j'ai eu l'agrément entreprise adaptée, j'ai été sollicitée par plusieurs donneurs d'ordre aéronautiques, ce qu'on appelle les Tier 1, qui sont les gros sous-traitants d'Airbus. Et ma volonté dans l'entreprise que j'ai créée, justement, c'était de me différencier en faisant vraiment grandir les personnes en compétences et sur ces domaines de compétences qui n'étaient pas habituels au sein d'une entreprise adaptée. Donc, quand Sogeti Hi-Tech m'a contactée pour répondre à un appel d'offres d'Airbus pour une mission, en fait, sur la télémesure, alors je vous dirai quelques mots sur la télémesure, bien sûr, ça m'a tout de suite intéressée. Et j'ai trouvé que ça pouvait être justement une façon de montrer qu'on pouvait être innovant sur ce type de partenariat. Donc, en fait, l'équipe qu'on a montée, c'est une équipe qui travaille donc pour les essais en vol d'Airbus. La salle de télémesure, c'est la salle dans laquelle sont récupérées toutes les données qui viennent des avions qui sont en vol. Donc, c'est une mission excessivement importante, puisqu'en fait, vous vous doutez bien que une minute d'essai en vol, ça coûte une fortune. Donc, si on perd les signaux, si on ne les exploite pas correctement, si on ne les met pas à la disposition des bonnes personnes, puisqu'il y a plusieurs salles d'essai en vol, donc on peut, s'il y a un essai en vol sur le 380 et qu'on fournit les données sur du 340, ça risque de poser des soucis. C'est donc une mission excessivement opérationnelle qui demande de la technicité. C'est une mission qui se fait en horaire décalé de 6h du matin à 22-23h selon les durées des vols. C'est une mission sur laquelle il y a des astreintes le week-end. Et donc l'ensemble, en fait, à la fois des compétences et des contraintes, faisait que ça avait vraiment un sens de faire un partenariat avec Sogeti. C'était une façon vraiment de montrer qu'on était capable de travailler d'égal à égal sur cette mission. Voilà.
Alors, Catherine, donc on peut imaginer que le niveau attendu de compétences est assez élevé pour ce genre de prestations et que les responsabilités sont majeures. Et ces responsabilités sont majeures aussi bien pour vous que pour Sogeti Hi-Tech, donc les deux personnes qui répondent. Donc, quels moyens avez-vous, vous, en tant qu'entreprise adaptée, mis en œuvre pour répondre à ce niveau de compétences et à cette responsabilité?
Alors, déjà, au niveau du recrutement des personnes, moi, j'ai des partenariats à Toulouse sur des organismes de formation reconnus, comme CPR Formation ou le CRIC, qui assurent des formations de niveau technicien à technicien supérieur et en informatique ou en réseau, qui sont quand même les compétences de base qui sont nécessaires pour cette mission, puisqu'il s'agit de manipuler des données informatiques sur des serveurs, de les enregistrer, de lancer des batchs. Donc, les compétences basiques étaient quand même des compétences informatiques. Ensuite, il y a tout l'aspect aéronautique qui est là, qui ne s'invente pas, qui ne s'apprend pas. Et pour pouvoir faire monter en compétences les personnes, on a eu quand même une formation de 2 mois sur les mois de juin et de juillet. Cette formation a été entièrement financée par Sogeti Hi-Tech. Voilà. Et en fait, Sogeti Hi-Tech a formé l'équipe entièrement, puisque c'est une formation, c'est une équipe de 4 personnes, donc 2 Sogeti et 2 de chez nous. Il n'y a aucune distinction dans le traitement des personnes. Tout au début, on faisait des binômes, parce que en fait, on marche en binôme. Il y a une équipe du matin, une équipe du soir. Donc, initialement, on faisait un binôme avec une personne de Sogeti et une personne de chez nous. Et en fait, avec le temps, maintenant, on fait des binômes avec n'importe qui et n'importe qui. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de la société d'origine. Et on peut avoir 2 de chez nous tout seul, 2 Sogeti tout seul, 1 Sogeti, 1 BGC 31. Et pareil pour les astreintes. Et donc, c'est Sogeti qui a financé la montée en compétences et le biseau et la passation d'informations sur les 2 mois. Et c'est là, en fait, c'est pour ça qu'on peut le faire. Nous, on n'aurait pas pu faire cette montée en compétences parce que c'est quand même lourd. C'est 2 personnes, 2 mois, ça fait 4 mois hommes. Alors que, justement, des structures comme Sogeti Hi-Tech et Capgemini ont les moyens de nous faire monter en compétences. Et,
donc, Anne Findler, vous avez suivi de très très près toute la réflexion et les concertations préparatoires, déjà à la réponse à l'appel d'offres auprès d'Airbus. Pourquoi avoir fait le choix de répondre avec une entreprise adaptée?
Alors, tout d'abord, un petit rappel. Donc, Capgemini, c'est 180 000 personnes dans le monde, 25 000 personnes en France. C'est vrai que nous en sommes à notre 4e accord handicap. Le taux d'emploi à fin 2015 est de 2,80%. Sachant que dans les entreprises de services numériques, la moyenne nationale est de 1,4%. C'est vrai qu'on a donc une expertise et un savoir-faire. Nous sommes une entreprise de service, donc on a voulu mettre cette expérience, cette expertise au service de nos clients. Donc Airbus, c'est vrai qu'au départ, c'est une demande d'Airbus, mais on a les moyens de répondre et on a ce savoir-faire. C'est vrai que c'est une démarche vertueuse qui permet le recours au secteur protégé avec, comme le disait Madame Huard, une montée en compétences. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on est très loin des, on est très loin des espaces verts ou de ce genre de choses. C'est vraiment très vertueux puisque ça permet vraiment le recours à des activités intellectuelles à forte valeur ajoutée. Néanmoins, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas pour autant négliger toutes ces activités, espaces verts, et il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. On peut le faire, on sait répondre, mais il y a vraiment de la place pour tout type d'activité.
Et Catherine, je reviens avec vous. Votre challenge réussi, me semble-t-il, il va bien au-delà de la simple première lecture, c'est-à-dire une co-traitance qui fonctionne. Parce qu'il y a quand même de nombreux autres aspects de l'entreprise adaptée et plus généralement du travail protégé et adapté que cette mission permet de démontrer.
En fait, le but, c'était vraiment de démontrer qu'il n'y a pas de différence, en fait, qu'on arrive vraiment à... Même Airbus, au début, les personnes d'Airbus savaient qui venait de quelle entreprise et qui venait donc de Sogeti ou de chez nous. Et puis les personnes changent et maintenant, en fait, ils se perdent complètement. Ils ne savent plus du tout qui vient de qui. Donc ça veut dire que vraiment, on peut le faire. On peut faire du 50-50, on peut donner des responsabilités. Alors, je rejoins, il y a un casting à faire. On ne va pas se voiler la face. Toutes les personnes en situation de handicap et tous les handicaps ne peuvent pas monter, assurer ces missions. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment de montrer que, justement, dans les personnes en situation de handicap, il y a énormément de compétences. Nous, on s'adresse, en fait, on s'est rendu compte, en fait, que il y a deux, en fait, on a vraiment deux types de personnes handicapées. C'est soit celles qui ont un handicap de naissance, qui ont des compétences, mais qui ont eu un parcours scolaire un peu chaotique et qui ne sont pas forcément arrivées au bon diplôme, au bon moment, et on connaît tous le parcours scolaire, et si on ne rentre pas dans des cases, on sort du système. Mais ces gens-là ont des compétences, il suffit juste leur donner le petit coup de pouce qui va bien. Ou alors, au contraire, des gens qui ont eu déjà une vie professionnelle avant, et qui ont un accident de vie, qui se retrouvent obligés de faire une reconversion professionnelle. Et en fait, l'idée, c'est aussi de leur permettre de nouveau un nouveau départ et une nouvelle vie. Et juste pour cette prestation, alors c'est juste la photo du haut, c'est quand même assez flatteur. Il faut voir que les gens, ils suivent les avions en vol, enfin ils entendent les pilotes, il veut dire il y a une vie. C'est vraiment hyper intéressant. Nous, les deux personnes qui sont à la télémesure, c'est un ancien chauffeur livreur de viande et un magasinier. Donc voilà. Donc, alors, la reconversion vers l'informatique, c'est eux qui l'ont décidé, hein, bien sûr. Ils ont eu des accidents de vie, donc moi, je n'y suis pour rien. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Ils ont eu leur diplôme. Et moi, je suis arrivée juste au moment en fait, où vous allez terminer la formation, parce que j'étais déjà en contact avec les organismes de formation. Et je leur ai donné et l'opportunité professionnelle et la compétence et la formation supplémentaire pour mettre un pied dans cette petite salle là-haut, cette grande salle, parce qu'il y a trois salles de suivi d'essais en vol. Et voilà. Et après, c'est pas une mission de tout repos. Vous le disiez, Béatrice, il y a du stress quand il y a trois vols ensemble et qu'il y a même il y a certains vols, c'est critique. Il faut savoir qu'il y a des vols en fait à l'intérieur de l'avion. Vous avez déjà des données qui sont enregistrées. Donc tout en parallèle, vous avez des données qui sont envoyées au sol, donc à la salle de télémesure. Et il y a un flux beaucoup plus important de données qui sont envoyées au sol que de données qui sont exploitées dans l'avion. Il y a certains vols, si la liaison avion-sol est rompue, parce qu'on perd l'avion, parce que voilà, on n'arrive pas à le suivre, l'essai s'arrête. On ne continue pas l'essai, parce que notamment des essais en vibration, vibration-structure, qui peuvent amener à l'explosion ou la destruction de l'avion en vol. Si la liaison est coupée ou si les informations ne sont pas interprétées correctement, on arrête l'essai. Donc c'est quand même... pour vous dire que c'est quand même une mission excessivement coûteuse, stratégique, avec des très, très grosses contraintes et un très gros stress par moment. Voilà. Donc c'est...
Et donc une très grande responsabilité.
Une très grande responsabilité.
Donc Anne, en conclusion, j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup d'entreprises. C'est un peu l'objet. et très certainement de nombreux acheteurs. Vous, Anne, qui représentez l'entreprise donneur d'ordre, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux acheteurs présents dans cette salle qui souhaitent construire des partenariats avec des EA ou des ESAT?
Alors tout d'abord, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Alors c'est vrai qu'avec le secteur protégé adapté, il ne faut pas avoir une attitude consumériste, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il faut anticiper les projets, suivre, accompagner les protagonistes aussi bien en interne que donc les entreprises adaptées. Ça, c'est très important. Ça se construit dans la confiance, donc la réciprocité. C'est vrai que ce sont des projets humains qui ont du sens, qui ont de la valeur. Et je crois que c'est toute la force. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, ce sont des projets transverses. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu le soutien de la direction et je crois que c'est très important. On est très transverse avec la direction des achats, la direction, les services. Enfin, il y a plein de projets, les équipes aussi, les équipes dirigeantes. Et c'est toute cette intelligence collective qui permet de mener à bien ce type de projet.
Bien, merci Catherine et merci Anne pour la démonstration de votre engagement que je sais être très sincère dans la valorisation du travail protégé et adapté. Et c'était absolument pas prévu, mais je voudrais juste quand même en profiter pour féliciter ici Catherine pour le prix de l'entrepreneur avec RE au bout, responsable, catégorie STPA, qu'elle a obtenu la semaine dernière. Donc bravo encore. Et puis merci. Et puis merci donc de tous ces témoignages sur tout le champ des possibles qu'offrent nos secteurs. Et on va maintenant passer à une autre démonstration, une autre façon de répondre aux attentes et aux besoins des entreprises clientes. Bien, c'est le sur-mesure. Et les EA, comme les ESAT, sont des structures où l'écoute des besoins, où la capacité d'adaptation et la conception de nouveaux process de travail sont des éléments fondateurs de leur structuration. Et vous allez pouvoir le découvrir, entre autres, avec Bruno Bugli. Bruno, vous êtes chef de projet aux ateliers de l'agglomération grenobloise. Donc, merci d'être venu jusqu'à Paris. C'est un ESAT qui a été créé il y a plus de 50 ans et qui aujourd'hui accueille 260 personnes reconnues, donc travailleurs handicapés. Face au déclin des activités traditionnelles et pour répondre aux attentes clients et permettre bien évidemment aux travailleurs handicapés d'accéder à des activités plus valorisantes, vous avez décidé d'investir, et investir dans tous les sens du terme, dans des activités plus porteuses d'avenir. Alors, expliquez-nous comment vous faites du sur-mesure.
Merci. Effectivement, comme vous le dites à juste titre, notre établissement est un vieil établissement qui a connu, on va dire, l'histoire des ESAT de France et qui était basé essentiellement sur de la sous-traitance de proximité. Cette sous-traitance ayant connu des déclins, il a fallu avoir, on va dire, un repositionnement stratégique important il y a quelques années et de choisir d'investir sur des secteurs d'activité où on pouvait maîtriser des métiers. Et un des secteurs qui a été choisi, ça a été de développer l'activité agroalimentaire et pharmaceutique. Et cette activité a pris, on va dire, sa mesure. Et au bout de, on va dire, de 5-6 ans, nous avons eu un laboratoire, un gros laboratoire lyonnais, qui avait décidé de fermer une usine en Hollande pour venir s'implanter sur Grenoble, et qui est venu nous visiter et qui nous a demandé de développer avec eux une offre dans laquelle aujourd'hui nous réalisons l'ensemble du conditionnement secondaire pour ce laboratoire. Et, alors c'est une expérience bien particulière dans la mesure où lorsqu'on a choisi de mettre en place ce partenariat avec eux, ils ont fait le choix, eux, de ne plus avoir d'atelier de conditionnement en interne. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de conditionner, c'est l'ensemble de leur usine qui est à l'arrêt. Et cette démarche a été entreprise chez nous avec, comme on dit, avec des investissements. Notre association, qui est une grosse association, qui est la DAPI de l'Isère, qui s'appelle la FIPAIM, on a été capable de mettre quand même 300 000 euros sur la table pour pouvoir construire les équipements et pour pouvoir accueillir ces prestations. Ce niveau de prestation a nécessité aussi un investissement important au niveau des encadrants. La réussite passe bien sûr par les professionnels. Sans nos professionnels, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Cet investissement s'est suivi d'autres investissements pour pouvoir suivre leurs évolutions, et notamment au travers de la dernière certification qu'on a eue, qui n'est pas une certification, puisque nous avons été audités deux fois par la FDA Pour ceux qui ne connaissent pas l'IFDA, hein, c'est le summum de l'audit, des audits du médicament aux États-Unis. Nous l'avons passé deux fois avec succès. Sans cette expérience, sans ce succès-là, aujourd'hui, ce laboratoire ne pourrait pas distribuer ses produits sur le territoire américain. Voilà. Donc, pour dire que c'est une belle expérience, c'est un élément qui nous fait énormément plaisir. Ça nous permet d'être obligé de dépasser nos limites. Alors, quand je dis nos limites, ce n'est pas forcément celle des travailleurs. Je pense plus à celle de nos encadrants, de nos directions, de concevoir et de pouvoir voir au travers des personnes des capacités qu'on n'imagine pas. Et à chaque fois qu'on arrive à dépasser ces limites, on s'aperçoit que nos organisations ont la capacité de le faire et on peut investir des nouveaux secteurs qui sont très riches dans tous les sens, qui sont tant au niveau des valeurs ajoutées qu'au niveau des expériences auprès des personnes.
Alors, j'ai envie de dire oui, c'est un bel exemple d'une forme de PME, et d'autant plus un ESAT, mais qui, quelque part, permet indirectement d'exporter notre secteur et la valeur de nos secteurs au-delà de nos frontières, puisque donc, indirectement, vous êtes présent sur le marché américain. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le sur-mesure, ça c'est, vous savez aussi, l'allier avec la co-traitance. Co-traitance pour développer une intelligence collaborative, comme je disais tout à l'heure. Alors, expliquez-nous comment vous allez réussir ce nouveau challenge en collaborant avec une entreprise d'injection plastique, le tout pour un grand laboratoire mondial.
Alors, dans la poursuite de nos activités en salle blanche, aujourd'hui, nous avons des nouveaux secteurs de co-traitance qui arrivent, que ce soit l'automobile, que ce soit l'injection plastique, qui sont aujourd'hui soumis aux mêmes exigences que, on va dire, l'agroalimentaire, le cosmétique et le pharmaceutique, notamment sur tout ce qui est lié à la propreté. Et depuis, on va dire, maintenant à peu près 6 mois, on développe un partenariat avec une société d'injection plastique qui a déposé un brevet pour la distribution, on va dire, de gélules dans un système automatique. Cette société s'est spécialisée, elle, dans l'injection, et nous sommes spécialisés pour eux, pour le montage de l'ensemble du dispositif. Alors, au départ, le dispositif était simple. Il y avait ce qu'ils appellent un run, c'est-à-dire c'est un premier jet de 150 000 produits. Ils ont fait le salon du pharmaceutique. Tout de suite derrière, ils se sont retrouvés avec 450 000 produits par an. Et là, ils viennent de nous annoncer qu'il va falloir monter à 2 millions de pièces par an. Donc 2 millions de pièces par an, c'est simple. C'est soit on leur disait on arrête, soit on décidait de transformer certaines activités qu'on allait transférer auprès de certains de nos collègues et d'investir à nouveau dans une grande chambre froide, salle blanche et autres, pour pouvoir justement réaliser leurs prestations et transférer ainsi, éviter le transfert de ces activités vers d'autres sous-traitants qui seraient autres que le monde protégé.
Oui, donc je crois que vous êtes passé de 80 à 300 mètres carrés.
Alors on va passer justement, oui c'est ça, hein, donc on va investir sur une salle qui était de 80 mètres carrés, on va en créer une nouvelle qui va être de à peu près 300 mètres carrés. À titre d'information, il faut savoir que ce soit pour le grand laboratoire, on a mis plus de 300 000 euros. Une salle de 100 mètres carrés, tout équipement confondu, c'est de l'ordre de 100 000 euros. Voilà. Hein, ce qu'il faut, voilà. C'est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui fait venir le client et non pas l'inverse. Si vous avez des équipements, si vous avez des installations, automatiquement, vous allez avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que vos clients vont savoir que vous avez un outil qui est adapté, qui correspond aux exigences de vos clients. Et dans ce cas-là, globalement, vous n'avez pas besoin de les démarcher. Ils viennent vous voir et vous pouvez développer des partenariats beaucoup plus pointus avec eux.
Alors, en conclusion, j'ai envie de vous poser une question. Tout ça, ce sont de très belles réponses à des entreprises. Mais j'ai envie de vous dire, mais tout ça, pourquoi ?
Alors, tout ça, pourquoi ? Tout simplement pour une seule finalité, c'est pour la valorisation des compétences des travailleurs handicapés que l'on a chez nous, en situation de handicap, pardon. Et alors, la première étape, c'est d'abord savoir qu'on peut travailler dans des salles blanches, qu'on peut travailler avec des personnes en situation de handicap. Hier, on n'imaginait même pas. Aujourd'hui, on peut. Et aujourd'hui, on va même plus loin, puisqu'on est sur un projet avec le premier laboratoire avec qui on a eu le premier partenariat important, c'est de mettre aujourd'hui une équipe chez eux. C'est-à-dire faire une inclusion complète dans une politique d'inclusion. C'est de venir travailler dans leur laboratoire. C'est vraiment pas simple dans le monde du médicament ou du pharmaceutique hein, de venir avec une équipe dans leur laboratoire. Aujourd'hui, ils ont fait la démarche au bout de 6 ans de partenariat. Ils sont dans la logique de se dire oui, maintenant on peut vous intégrer. On vous connaît, on connaît le niveau de compétences que vous avez, on connaît l'engagement des travailleurs au travers des produits, la fierté qu'ils ont de travailler pour nous. Et c'est clair que plutôt que de sortir nos produits dans le futur projet, ce serait vous qui viendrait chez nous et qui aurait le loisir de faire cette prestation dans nos murs.
Merci. Sébastien.
Merci beaucoup, Bruno. Cyril Guesso, vous êtes le dirigeant de l'entreprise adaptée FMS implantée dans les Landes. Pourriez-vous nous décrire les principales activités de votre structure ?
Bonjour. Effectivement, mon accent va me trahir puisque vous voyez de suite que je suis basé dans les Landes. FMS est une entreprise adaptée avec à peu près 95% de personnes en situation de handicap, salariés, pour la majorité en CDI, déclinée en 3 activités. Une première activité qui est dans le génie logiciel. 2 logiciels sont notamment déposés à l'Agence de protection des programmes. Une activité en logistique, essentiellement orientée sur le e-commerce. On travaille pour des groupes comme Cdiscount, par exemple, ou d'autres. Et 70% de nos clients en e-commerce sont moins de 20 salariés. Et une prestation en logistique entretien des vêtements professionnels de travail. Dans l'histoire de l'entreprise adaptée FMS, c'est d'abord son organisation. La première personne qui a été embauchée en service support est un urbaniste du système d'information, c'est-à-dire un responsable informatique. Et on avait décidé au tout démarrage de cette entreprise adaptée d'élaborer l'ensemble du système d'information qui soit structuré par nos soins, pour nous et par nous. À la fois pour l'ensemble de nos salariés et de leurs besoins en matière de modification de l'organisation, mais aussi pour nos clients. Donc en fait, toute la société, tous les ensembles de ces activités sont orientés par nos activités. Et dernier point, nous travaillons sur une notion, comme vous pouvez voir sur le tableau là-haut, de co-traitance. Ça veut dire que nous travaillons à la fois en logistique entretien, par exemple avec un ESAT, où on fait des contrats tripartites entre le client et l'entreprise adaptée et l'ESAT pour fournir la logistique entretien des vêtements professionnels de travail. Ils font l'entretien, nous on fait la logistique. Une PME d'Anglette qui, elle, s'occupe d'éditer, de créer des logiciels de schéma, de reprise de schéma électrique que nous mettons, nous, en opération chez nos clients et nous occupons comme un bureau d'études de faire l'ensemble de la saisie et du livrable. Et enfin, sur du support informatique de niveau 2 avec CGI.
Justement, dans le cadre de cette activité informatique, vous avez développé un partenariat innovant avec CGI, ici représenté par Jean-Baptiste Resquet. Pouvez-vous nous décrire les grandes lignes de ce partenariat et comment un groupement momentané d'entreprises peut-il permettre de sous-traiter des prestations informatiques au secteur adapté, prestations très, très peu encore connues aujourd'hui dans notre secteur ?
Le GME, le groupement momentané d'entreprises, ou la co-traitance, en fait, c'est que la traduction administrative et juridique d'un partenariat, d'une association, d'une solidarité, puisque la solidarité n'est que la convergence d'intérêts. Et j'appellerai plus, si vous voulez, j'utiliserai plus le mot de symbiose, d'ailleurs, parce que le mot symbiose se définit comme étant une association durable et profitable aux 2 organismes qui la composent, ce qu'on fait, par exemple, avec CGI, que je vais vous décrire, puisque nous avons fait une première tentative avec succès et nous risquons d'avoir de nouveaux clients ensemble. Le GME, qui est né avec CGI, c'est d'abord une activité de support informatique de niveau 2. Le niveau 1, quand vous avez une problématique à l'utilisation de, là pour le coup, c'est le logiciel SAP pour Airbus sur la supply chain, vous appelez le helpdesk, le niveau 1, qui va essayer de résoudre un problème de mot de passe, un problème... petit problème, petite anomalie. Et si le niveau 1 n'arrive pas à résoudre votre problème, vous passez à niveau 2. Donc le niveau 2, c'est un problème qui n'est pas normé ou difficilement normé. Donc il y a de l'investigation. Je reviens sur l'entreprise adaptée. Nous employons des personnes en situation de handicap, à peu près plus de 90%. Donc 79% sont sans qualification au regard de l'emploi qu'ils occupent. C'était le cas notamment en informatique. Ça veut dire qu'en informatique, nous avons eu la capacité d'embaucher, de redécouvrir l'ensemble des possibles des talents de nos salariés et d'étudier, d'identifier les talents, les compétences endormies qui étaient potentiellement développables pour les autonomiser sur ce type d'activité intellectuelle à forte valeur ajoutée. Nous avons également mis en œuvre, et je pense que Jean-Baptiste viendra sur le sujet, tout un système de gestion prévisionnelle des emplois des compétences qui nous a permis de déterminer l'ensemble des compétences nécessaires à l'autonomisation des personnes. Et ainsi, nous avons pu mettre en œuvre ensemble une section d'apprentissage adulte handicapé, nous permettant notamment de monter en charge et en professionnalisation des personnes apprenties en situation de handicap, dont certains étaient bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé sans être qualifiés.
Justement, Jean-Baptiste, quels sont pour vous les principaux avantages d'une telle contractualisation entre une ESN, une grande ESN et des entreprises adaptées ? Comment cette grande ESN peut-elle générer des dynamiques et des solutions opérationnelles ?
Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Pour répondre sur le point des avantages, ils sont multiples. D'abord, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le partenariat précédent, pour répondre à un enjeu de notre client, Airbus, puisque nous avons ce client en commun. D'ailleurs, si vous me permettez deux slides plus loin, vous avez une présentation du projet juste après celui-ci. Voilà, en quelques chiffres, vous avez ici quelques éléments qui présentent le projet en question. Donc tout d'abord, bien sûr, pour Airbus, qui va pouvoir reconnaître ses UB. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pour CGI, c'est l'occasion aussi de développer ses propres compétences autour de l'handicap. On s'est rendu compte que dans le cadre de ces partenariats, qui sont multiples, nous avons pu appréhender l'handicap de manière différente et faire monter en compétences nos managers. C'est important. Et aussi, et ça, ça va plaire, donc ça, on va parler d'innovation sociale, ou je ne sais pas, mais il y a l'innovation opérationnelle, puisque, en fait, en collaborant avec le secteur adapté, adapté finalement pour bien son nom, nous-mêmes, nous avons dû réfléchir à la manière que nous devions aborder le métier, en modifiant les activités, en les adaptant, en les structurant différemment, notamment pour accueillir dans un premier temps des gens avec un plus faible niveau au départ de compétences et pouvoir les faire évoluer. Donc il faut remettre tout ça à plat, bien sûr. Et ça me permet justement d'aborder la deuxième partie de la question. Finalement, c'est sur quelle dynamique on s'est appuyé pour mener ça à bien. C'est en regardant finalement notre propre référentiel de compétences, on s'est dit finalement quand nous recrutons classiquement nos profils qui vont être des bac plus 2, des bac plus 5, on va s'attacher à avoir des gens qui sont capables finalement de répondre à l'ensemble des besoins de l'entreprise, et puis une fois la carrière démarrée et la période va s'orienter, mais là cette fois-ci en ciblant, en prenant des activités spécifiques, on dit qu'est-ce qui est essentiel pour ce poste. Et on s'est axé là-dessus dans un premier temps. Et du coup, ça nous a permis de redescendre dans notre référentiel, de dire mais finalement je suis capable de prendre une personne avec telle compétence, un niveau de service important, on est sur du support par exemple, vous le voyez, donc quelqu'un qui va être capable de répondre au téléphone, de répondre à un moment, une problématique, de savoir gérer le stress de la personne en face, par exemple, et qui va être capable, bien sûr, d'appréhender donc cette capacité d'apprentissage qui va être accompagnée doublement, Cyril l'a évoqué, et je crois qu'il en reviendra juste après. Et nous, on accompagne tout au long comme ça, et pour faire monter en compétences. Et il faut juste savoir que ça, du coup, ça nous sert nous-mêmes en interne. En fait, nous avons développé nous-mêmes pour CGI des recrutements de niveaux différents. Et ça nous permet de construire une nouvelle trajectoire pour nous-mêmes. Voilà, donc c'est cet aspect double évoqué. Et pour finir, juste sur l'avantage, il est en fait, il est crucial aussi à l'intérieur de l'entreprise parce que on apporte de la valeur. Nous, on a constaté, on a CGI dans son fonctionnement, il y a des enquêtes annuelles où on interroge tous les collaborateurs. Et l'année où nous avons fait le premier GME visible, sur lequel, qui a été un premier succès, donc qui a été sur lequel nous avons communiqué à l'intérieur et à l'externe, et à ce moment-là, le niveau de satisfaction des collaborateurs est monté d'un cran, mais de manière significative. Sur une note sur 10, on a pris 1 à 2 points d'amélioration, et ce qui était en tête majoritairement, c'était le fait que nous supportions l'emploi handicap. Et donc, c'est crucial, on se rend compte que là, au-delà de tout ce qu'on peut faire, il est aussi, en fait, ça a du sens à des niveaux qu'on maîtrise même plus. Pour tout le monde. Donc voilà, pour répondre à la première question. Okay.
pour poursuivre, comment un groupe comme CGI peut-il s'investir pour accompagner les entreprises adaptées dans l'accès au métier de l'informatique. Et vous êtes-vous fixé des objectifs d'accompagnement en termes d'équivalence homme de collaborateurs au sein des entreprises adaptées ?
Alors, je réponds à la deuxième partie d'avant. Oui, il y a des objectifs. Faut juste savoir qu'ils sont découpés par région, en fait, par agence. Moi, j'appartiens à l'agence de Toulouse. Et en fait, ces objectifs à Toulouse, bah, ils sont comme tout le monde. Bah, nous, quand on cumule en fait tout ce qu'on fait, GME, reconnaissance, on est à plus de 7%. Et en fait, on continue. Donc, ces objectifs ce n'est pas un frein pour nous. C'est la chance que nous avons. Après, nous sommes particulièrement actifs à Toulouse, n'est-ce pas, Cyril ? Donc, on est plein d'énergie. Et on ne va pas s'arrêter là. Donc, ce n'est pas le cas partout en France, en revanche. Et donc, en fait, on a un modèle qu'on essaie de dupliquer. Du coup, pour comment CGI peut le faire, en fait, à différents niveaux. En particulier, comme je l'ai évoqué, comme nous, on a fait cette réflexion sur nos propres référentiels de compétences, eh bien, on a souhaité, avec l'aide de cabinets, donc je pense notamment avec Scopco Savoir, à mettre en place, au sein de l'INEA, à participer, en fait, à la filière de professionnalisation. En gros, on a accepté, on a signé un accord, parce que normalement, c'est confidentiel, de fournir à l'INEA la description, comme ça, de nos postes. Comment redescendre, en fait, d'un cran. Tout ce travail que nous avons fait. Il nous a servi à différents niveaux. Ce sera abordé juste après, quand on allait voir au moment de l'université, pour avoir des diplômes universitaires sur mesure. Mais aussi, et surtout, bien sûr, pour aider à la professionnalisation du secteur. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à moyen terme, les entreprises adaptées qui veulent investir sur l'informatique vont pouvoir avoir là une description, en fait, finalement, des postes et pouvoir s'évaluer ou choisir la politique de développement qu'ils auront avec ce qu'on appellera bas niveau, peut-être, mais du moins des choses qui sont à un moment simplifiées, et le chemin. Et j'en viens, c'est que nous, ça, finalement, c'est un tableau, c'est bien, mais c'est pas vivant. Et l'engagement que nous aimerions avoir, en fait, c'est rendre, en fait, au secteur adapté ce que ça nous apporte. Je l'ai évoqué commercialement, voilà, enfin, on peut le dire. Moi, mon métier, c'est manager business. Je fais ça parce que j'ai cette fibre. Voilà, je vais pas vous. Si vous avez une demi-heure, je vous raconte pourquoi, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Par contre, ça m'aide. C'est-à-dire, quotidiennement, mon client, je suis en train de lui apporter de la valeur. Je lui démontre que je lui apporte de la valeur. Et en plus, ça répond à son enjeu. En fait, il y a plein de problématiques, justement, auxquelles on peut répondre à travers ça. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'innovation, de voir son métier différemment, donc des UB, bien sûr. Et du coup, nous, CJ, on a décidé, mais c'est comparable à ce que fait Sogeti, parce que je l'ai senti, j'ai entendu tout à l'heure, on se dit qu'on a cette responsabilité d'accompagner le secteur adapté. Aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, que sont Airbus, que sont tous les autres, et dont certains ici sont présents, vous avez confié généralement, ou ils ont confié généralement, une grosse partie de leur informatique à des sociétés comme les nôtres, des grands groupes, 70 000 personnes. Donc et ce qui se passe, du coup, ça fait que ces grands donneurs d'ordre n'ont plus la capacité, eux, par contre, de développer cette relation, ce partenariat avec les entreprises adaptées, parce qu'ils n'ont plus ce plus bas niveau, en fait, dans l'informatique. Du coup, si on veut que l'entreprise adaptée soit en mesure, au moment, de répondre à tout ça, parce qu'on avait être gagnant, au final, je vous expliquerai l'équation ensuite, eh bien, il faut qu'on soit en mesure d'accompagner le secteur adapté. Et donc, bah, de travailler, collaborer, comme je le fais avec Cyril, comme je le fais avec d'autres partenaires, ou à un moment, on va dire, mais voilà comment on mène une action. Voilà comment, alors quand je dis une action, c'est pas, tiens, comment ta puce à touche entrée, c'est comment je réponds à un service complexe. Vous avez vu ici les activités. Aujourd'hui, il faut juste savoir qu'FMS sont en référence sur la qualité, sur notre périmètre. On parle de volume quand même relativement important. C'est des supports applicatifs, c'est crucial. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'essais en vol. Ça allait tout autant, c'est la production. Production qui s'arrête, ce sont des millions d'euros qui sont perdus. D'accord ? C'est le support-là. Eh bien, on sait que sur la qualité, document, d'où l'importance de la qualité, je rappelle pour Airbus, qui produit des avions et qui doit vous assurer, quand vous allez rentrer chez vous ce soir ou demain, que l'avion puisse continuer à voler jusqu'au bout. Eh bien, c'est FMS qui l'assure à son niveau. Vous inquiétez, c'est ça ? Mince, Cyril,
ça je m'en vais, on s'en va. Ça ne me rassure pas.
Viens, on part.
Il faut que je revoie mon contrat d'assurance.
Non, je te rappelle, dans le contrat, on assume, on prend les responsabilités. C'est un peu un lire, c'est une manière de le faire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grands donneurs d'ordre, je dépasse légèrement, je vous prie de m'excuser, dans les grands donneurs d'ordre, c'est, ils vont demander en fait des garanties, un niveau de garantie remarquable. Quand on est une entreprise adaptée de 60 ou 100 personnes, qui est déjà, si je connais un petit peu le secteur,
une belle entreprise adaptée,
c'est monstrueux. Exposition à 10 millions d'accord, de risque, c'est énorme. Et donc, c'est là où nous, à un moment, on va faire aussi notre rôle, c'est-à-dire on va assurer aux côtés de l'entreprise adaptée la pérennité de l'activité, quoi qu'il se passe. On prend. Alors pour ça, on a des moyens. On va, alors là, je ne peux pas tout dévoiler maintenant, quand même, parce qu'il y a un petit peu d'intelligence dans nos contrats. Mais voilà, c'est une manière, en fait, de parvenir à ces fins.
Ok. Merci beaucoup. On voit vraiment que la notion de compétence est un enjeu primordial dans tous les témoignages. Cyril, avec la filière informatique de l'INEA, vous avez participé à la mise en œuvre d'une section d'apprentissage pour adultes handicapés dans un CRP à Toulouse porté par l'association CRIC. Est-ce que vous pouvez témoigner de cette première expérimentation et sur les premiers enseignements par rapport à cette section et surtout l'intérêt et la possibilité au sein de cette section d'y voir à la fois des salariés d'entreprises traditionnelles et des salariés d'entreprises adaptées?
Alors là, je vais aussi intervenir en tant que vice-président de l'Union nationale des entreprises adaptées pour expliquer un petit peu la genèse de cette démarche. Lorsque Airbus nous a sollicité, nous a fait venir dans un ensemble de dispositifs, c'est qu'il était dans un projet avec un objectif de 1000 unités bénéficiaires indirectes, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 embauches au sein des secteurs adaptés et protégés, ce qui est colossal. Dans toute la branche de ce qu'ils avaient à sous-traiter, dans leur souhait, c'était la partie informatique. Et vous le savez, sûrement que vous avez regardé le baromètre Humanis ou autre, l'ensemble des activités proposées par le secteur adapté et protégé à l'époque n'était pas totalement dédié à l'informatique. Donc il a bien fallu prendre à bras le corps ce sujet-là, puisque pour travailler dans les règles de l'art, il y a quand même un minimum de connaissances à avoir. Ce que l'on appelle, hein, autour de cette table professionnalisation, c'est ce que je nomme aussi l'autonomisation. C'est un portement en anglicisme. C'est-à-dire cette capacité à ce que la personne, en toute autonomie, soit capable de faire les missions qui lui soient proposées. Pour ce faire, pour monter en charge, c'est quoi? C'est être capable de proposer toujours du développement en matière de compétences individuelles, mais collectives. Capable également, pour tout ce que vous êtes ici et qui attendez de chercher des solutions, c'est de pouvoir l'absentéisme. Il y a un enjeu qui est primordial également, qui est souligné dans nos contrats de co-traitance, c'est la gestion de l'absentéisme. Dans les entreprises adaptées, nous avons un absentéisme moyen aux alentours entre 10 et 13%. Et cet absentéisme subi, il faut évidemment le gérer. Parce que le client final derrière attend une prestation continue et de haute qualité. Et pour ce faire, il faut que l'on investisse dans la compétence. Le porteur de cette compétence dans les prestations intellectuelles, c'est les salariés. Nos salariés en situation de handicap. Donc on s'est réunis avec CJ, avec l'ensemble de la filière, les nombreux membres qui la composaient, qu'au savoir qui a été nommé, l'UNEA, l'Université des sciences sociales de Toulouse 1, M. Mandré, qui était à l'époque directeur du CRIC, qui est un CRP. Nous avons travaillé ensemble pour essayer d'élaborer une section d'apprentissage adulte handicapé au sein d'un établissement. Nous avons composé ensemble des cours qui nous paraissaient pertinents pour pouvoir l'ouvrir à la fois aux entreprises adaptées, mais aussi aux entreprises classiques, ordinaires. Et c'est pourquoi la première session, qui a à peu près 9 apprentis, se compose d'un tiers de salariés d'entreprises adaptées et des deux tiers d'entreprises classiques, qui est autour de la table et qui permet d'avoir généré cette première session qui va en appeler, j'espère, d'autres, grâce à vous, partout en France et pas qu'à Toulouse. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec d'autres partenaires comme ERDF, Société Générale et bien d'autres pour en mettre sur Paris, notamment sur de l'informatique.
Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure et en disant un très grand merci à l'ensemble de nos intervenants. En synthèse, j'espère que tous ces témoignages vous ont démontré combien les secteurs du travail protégé et adapté peuvent être source de partenariats performants, de partenariats innovants, que la diversité des approches, la diversité des modes de contractualisation qu'on a pu voir rapidement aujourd'hui sont autant d'ouvertures sur le champ des possibles, sur le champ des partenariats durables et enfin sur le champ du développement des achats responsables. Et tout ce champ des possibles, s'il y avait une chose à retenir, c'est de ne pas hésiter à oser demander aux ESAT et aux EA de leur faire part de vos prestations, de leur faire part de vos attentes, de leur faire part de vos besoins. Et ensemble, vous allez pouvoir trouver des solutions car il y a un vivier de réactivité et de réponse sur mesure et de réponse innovante, de réponse créatrice que vous pourrez découvrir. Alors, je ne sais pas si on a encore du temps pour les questions de la salle. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, monsieur.
Pardon. Bonjour, Nicolas Gauthier, Société Générale. Dans le domaine informatique et non bancaire. Je suis très intéressé par les expériences qui ont été présentées ici. C'est pour ça qu'en tant que responsable informatique RSE, je suis présent aujourd'hui. L'expérience que j'en retire, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai quand même de l'expérience là-dessus, c'est que malgré l'efficacité de ce que vous avez proposé, le secteur adapté, et je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est adaptabilité, justement. Parce que les facilités qu'il y a derrière de formation, l'engagement des gens fait que vraiment c'est le mot sur mesure est pertinent. L'engagement de ma société, au moins, il est clair là-dessus. Le problème, on l'a vu tout à l'heure, on n'arrive pas au 6%. Les grosses boîtes n'arrivent pas au 6%. Et je pense que 1,6, on a parlé de loin s'en faut. Quand on regarde un petit peu sur ces démarches-là, on voit les entreprises qui sont volontaires de part et d'autre. Mais ce qu'on n'adresse pas suffisamment, c'est l'environnement en France. Le transport. On travaille à la Défense. Comment je fais en fauteuil roulant pour aller de la Défense? Dans les universités, c'est encore pire. Et je pense que ça, c'est un gros frein. Et quelle est votre approche là-dessus? J'allais utiliser le terme de lobbying, mais de motivation de la force publique, peut-être pour nous faire passer de 2 à 4% en facilitant les déplacements des gens, malgré le télétravail, c'est pas toujours suffisant.
Alors, moi, j'ai déjà un premier élément de réponse, si vous me permettez, puisqu'on a cette problématique, nous, en interne. Puisque j'ai différentes agences, la plus grosse, c'est Paris. Comment je fais pour atteindre mes fameux 6% à Paris? Eh bien, on n'y arrive pas. Voilà, parce que, enfin, moi je vous dis hein, ce que je vis moi, après je laisserai peut-être quelqu'un de plus compétent sur le reste répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a du chemin à faire. Et moi, du coup, ça fait qu'au fur et à mesure, en fait, de ma vie sur le handicap, j'ai fait deux étapes. La première, je me suis dit, puisque j'arrive pas à le faire à Paris, mais c'est à moi de le faire en région, dans mes centres de services, c'est-à-dire là où les gens sédentaires, en fait, à un moment, vont toujours au même endroit et savent, du coup, construire leur parcours, peuvent venir plus facilement. C'était ma première réponse. Et je me suis dit, celle-ci, elle est bien. Elle tient la route. Effectivement, j'ai évoqué plus de 7% à Toulouse. Génial. La seconde, ça a été, et ça, pour ça, je me suis fait aider de gens particulièrement intelligents et qui m'éclairent, dont des gens ici présents. En fait, on m'a dit, mais le sujet, c'est pas... en fait, on peut réfléchir, tout ça, mais en fait, le sujet au cœur de tout ça, c'est l'autonomie, en fait. Et quand on réfléchit autonomie, tout ça, c'est, on l'obtient, au final, au fur et à mesure. C'est-à-dire que les réponses aux enjeux de la GFIP ou, disons, à la cotisation, c'est une résultante de tout ça. Et du coup, ça veut dire qu'on ne va plus chercher à faire aller les gens à la Défense, en fait. On va, je pense, sortir du cadre. Et vous avez, la Société Générale, j'imagine, d'autres endroits, d'autres bureaux. Et du coup, ça impliquerait vous-même, à un moment, ça a interpellé les services de l'État, même s'il faudra le faire certainement, que vous puissiez vous-même réfléchir. Tiens, j'avais décidé de le faire à tel étage à la Défense, mais peut-être que je vais aller voir mon donneur d'ordre et je vais lui dire « Non, écoute, tu ne le fais pas là ». On a vécu ça, nous, chez Airbus. C'était une activité qui, celle-ci, mais une autre encore qui est décrite dans un slide juste avant, où c'est au cas, en fait, c'est hyper protégé, on ne peut pas sortir du périmètre. Eh bien, toutefois, c'était mieux de le faire dans nos locaux, parce qu'on avait plus de moyens, notamment parce que leur environnement à eux n'était pas accessible. Eh bien, Airbus a accepté de bouger ses règles, de nous donner les moyens pour l'implémenter chez nous. Voilà, je pense, en fait, où on va arriver au petit à petit. J'espère avoir répondu partiellement à votre réponse.
Oui, alors pour compléter, je disais tout à l'heure, nous on était partis à 0,6% de taux d'emploi il y a 10 ans. On est aujourd'hui à pratiquement 3%. Donc c'est vrai que ça évolue. C'est long, c'est très long. Et comme vous disiez, il faut accompagner les gens. C'est vrai qu'on a mis en place. Au regard, par exemple, du niveau de recrutement que l'on a en société de service, c'est Bac+5, il n'y en a pas. Donc on a mis en place des filières de formation qui permettent à des gens qui ont un niveau Bac, Bac+2, à atteindre un niveau ingénieur. Alors, dans un premier temps, dans le cadre de nos accords, on s'est beaucoup intéressé aux gens qui étaient chez nous. C'est vrai que ça a des effets vertueux aussi. Le télétravail, par exemple, au départ, chez Capgemini, était réservé aux personnes en situation de handicap. on s'est aperçu des bienfaits, enfin voilà, et donc ça s'est entendu, étendu à l'ensemble des collaborateurs. Alors c'est vrai que du coup, il y a une espèce d'effet, un changement de, un peu de paradigme, de conception du mode de travail qui est important.
Nous sommes d'accord. Si vous ne l'êtes pas, vous le dites.
Voilà. Et alors, oui, pour compléter ensuite, donc, au départ, on s'est intéressé aux personnes qui étaient chez nous, nos collaborateurs, le maintien dans l'emploi. On fait très attention à la gestion, à la GPEC, enfin, la gestion des compétences et d'évolution de carrière des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'est dit, bon, ben, le levier qui nous reste, effectivement, c'est l'emploi indirect. Et c'est vrai qu'on a, avec nos partenaires, hein, que ce soit l'UNEA ou le GESAT, c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup dans cette démarche. Parce qu'à un moment, on n'a pas non plus de métier industriel chez Capgemini, comme la Société Générale, les services bancaires. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On ne va pas fabriquer, on ne fabrique rien. Donc il a fallu qu'on trouve des sources. Alors, je vais donner quelques exemples un peu concrets. Tout ce qui est notes de frais, gestion de notes de frais, c'est externalisé au secteur protégé. Tout ce qui est aussi feuille de paye, c'est fait par le secteur protégé. La co-traitance, sous-traitance informatique également. Le recyclage, alors ça fait des quantités hein, pour Capgemini, recyclage des PC, recyclage papier. Enfin, voilà. Il a fallu qu'on trouve des niches. Et c'est vrai qu'en creusant, en cherchant, ben, on arrive à trouver, on arrive à développer un peu. Enfin, on espère un jour atteindre 10%. Mais il y a encore de la marge.
Juste pour conclure aussi et sur cette question qui est souvent une question qui revient sur le transport dans les activités innovantes ce matin dans la première table ronde, nous avons présenté un réseau d'entreprises adaptées qui est spécialisé dans le transport de personnes et de marchandises. Donc là aussi c'était un secteur qui n'était pas du tout implanté dans les entreprises adaptées et dans les ESAT aujourd'hui, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc ça peut être un double effet qui se coule en fait, d'avoir recours demain à ces entreprises adaptées qui font également de la prestation de transport de personnes.
On nous fait des signes derrière. Donc merci infiniment. Merci.